Bonjour, nous sommes le vendredi 10 décembre 2010 et aujourd'hui nous allons parler du grand emprunt. Le grand emprunt est comme l'Arlésienne de l'opéra de Bizet. C'était une belle fille qui se faisait attendre. Depuis un an environ, l'Arlésienne va et vient et comme d'autres belles filles, elle est ruineuse. La voici qui ressurgit soudain le 9 décembre 2010. François Fillon a annoncé que 35 milliards d'euros prélevés sur le grand emprunt seraient dépensés pour préparer l'avenir. Enseignement supérieur, recherche industrielle, PME, développement durable et numérique, etc. À l'énumération ci-dessus s'ajoutent des prêts verts, des réseaux électriques intelligents, les énergies renouvelables marines. L'énoncé de ces projets, censés sauver la France, donne le tournis et balise les chemins de la ruine. Lancé en novembre 2009, le grand emprunt reposait sur l'un des principes mensongers de la République fromagère, je dépense, donc je suis. Un courtisan avait eu l'idée tout à fait par hasard et l'avait ajouté au dernier moment dans un discours de l'hyper-président. La fusée s'était aussitôt envolée. Le prétexte initial était la crise qu'il fallait corriger et l'idée était que seul l'État était le seul à pouvoir agir. Les idées fausses foisonnaient, d'abord par imitation du capitalisme, se trouve le concept que l'État pourrait investir pour créer de la richesse. Et merveille parmi les merveilles, l'idée de l'endettement était lancée sans savoir ce qui allait être fait avec l'argent qui n'existait pas encore. Chez les entrepreneurs privés qui résistent à l'assaut destructeur du gouvernement, la question de l'endettement éventuel n'est posée que si l'on se trouve en face d'un projet déjà structuré et porteur d'avenir. Donc, après réflexion, l'emprunt ne fut pas placé dans le public de crainte d'un désaveu magistral. Et finalement, on se contenta de piocher dans la possibilité d'emprunt sur les marchés, possibilité encore heureusement intacte sans que l'on sache jusqu'à quand. Pour savoir où investir, il fallait ouvrir une parlotte. Elle rassembla pendant plusieurs mois, écoutez bien, 24 membres. Le génie fut de confier la présidence à deux richissimes cumulards, Rocard et Juppé, dont le seul titre de gloire avait été de créer deux impôts censés boucher le trou insondable de la Sécu. La mission qui leur fut octroyée sans rire était de dessiner la France de demain. En dehors des comités Théodule, dont la commission était l'un des exemples, la création permanente de nouveaux fromages publics est une autre valeur de la République fromagère évoquée plus haut. René Ricol fut nommé commissaire général à l'emprunt et rattaché directement au Premier ministre. Remarquons qu'il n'était pas haut commissaire, ce qui nous montre qu'une hiérarchie subtile existe entre les fromages. Le comité de surveillance doit assurer la circulation des fonds depuis le commissaire général jusqu'aux opérateurs existants avec des contrats d'objectifs très précis. Une bureaucratie publique étant éternelle par définition, nous voilà mal partis. Qui sème le vent récolte la tempête. Voici un bref énoncé de ce qui sème, de ce que l'on sème dans cette si folle opération. Dépenses publiques avec impôts à l'appui, endettement supplémentaire, vanité des projets où l'argent disparaît sans espoir de récupération, délais interminables et démarches obscures imposées aux entrepreneurs ayant la faiblesse de déposer des projets pour avoir des subventions, création d'une nouvelle administration, assèchement des financements privés, seul créateur de richesses, combine pour bénéficier de la manne publique. Le regretté président des USA, Ronald Reagan, déclara un jour, je cite, « Les mots les plus terrifiants dans la langue anglaise sont « Je suis le gouvernement et je suis là pour nous aider ». ce n'est pas l'avis des fausses élites qui nous gouvernent, non seulement pour des raisons idéologiques, mais pour protéger leurs propres intérêts solidement engagés dans le développement perpétuel de la susdite république fromagère. Cette prétention insupportable de nous aider fait prendre au pays le chemin de la ruine. Il en résulte économie indéfiniment languissante, avec chômage et paupérisation. La solution existe pourtant et est à portée de la main. Libérer l'économie est la seule façon de préparer l'avenir, et beaucoup de pays s'y sont engagés avec résolution. Chers amis auditeurs, je vous dis, suivant la coutume, à mardi